Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre donc de Lectures en liberté, nous reprenons le roman de Jacques Kerouac, Sur la route. Où est Marie-Lou ? Lui demandai-je. Edine répondit qu'elle avait apparemment putassé et gagné quelques dollars et qu'elle était partie pour Denver, la putain. Puis nous sortîmes prendre un pot car nous ne pouvions parler à notre aise sous le nez de ma tante, assise dans le salon en train de lire son journal. Elle jaugea Dine d'un regard et décréta que c'était un dingo. Au bar, je dis à Dine : « Vain Dieu, mon pote, je sais parfaitement que tu n'es pas uniquement venu me trouver pour apprendre l'art d'écrire. Et après tout, la seule chose dont je sois sûr, c'est que tu montres dans cette affaire l'acharnement d'un toqué de la benzédrine. » Il répondit : « Oui, bien sûr. Je sais exactement ce que tu veux dire, et de fait, tous ces problèmes se sont présentés à mon esprit. Mais ce que je brigue, c'est la concrétisation de ces facteurs qui dépendraient au premier chef de la dichotomie de Schopenhauer pour une part intimement accomplie. » Et cela continuait sur ce ton des discours auxquels je ne comprenais rien et lui-même pas davantage. En ce temps-là, il ne savait vraiment pas ce qu'il racontait. Pour tout dire, c'était un gosse frais et moulu de la centrale, et tout surexcité par la possibilité merveilleuse de devenir un vrai intellectuel. Et il adoptait volontiers, mais d'une manière abracadabrante, le ton et les expressions qu'il tenait des vrais intellectuels. Dites-vous bien, cependant, qu'il n'était pas si naïf que ça pour les autres choses, et qu'il lui suffit de quelques mois à peine de camaraderie avec Carlo Marx pour être dans le coup et se mettre au courant des termes et du jargon et de tout. Néanmoins, nous nous comprenions bien pour d'autres sortes de folies, et je fus d'accord pour qu'il restât chez moi jusqu'à ce qu'il ait trouvé du travail. Et, de plus, on décida de partir pour l'Ouest un jour ou l'autre. C'était pendant l'hiver 1947. Un soir où Dean dînait à la maison, il avait déjà un emploi dans un parking de New York. Il se pencha sur mon épaule pendant que je tapais en vitesse sur ma machine et dit « Allons, mon pote, il ne faut pas faire attendre ces dames, dépêche-toi. Attends une minute, dis-je. Je suis à toi dès que j'ai fini ce chapitre. » Et c'était l'un des meilleurs chapitres du livre. Puis je m'habillai et l'on mit le cap sur New York pour rejoindre des filles. Dans l'autobus, comme nous roulions dans le gouffre surnaturel et phosphorescent du Lincoln Tunnel, appuyés l'un contre l'autre, nous agitions les mains, gueulantes et discutant avec frénésie, et la mouche de Dean commençait à me piquer. C'était un gosse furieusement excité par la vie. Et s'il était un truqueur, s'il roulait le monde, c'est seulement parce qu'il voulait vivre de toutes ses forces et se mêler aux autres qui autrement n'auraient fait aucun cas de lui. Il me roulait, et je le savais, pour le vivre, le couvert, l'art d'écrire, etc. Et il savait que je le savais. C'était le lien essentiel de notre complicité. Mais je m'en foutais. Et nous nous entendions bien, sans faire d'histoire et sans nous marcher sur les pieds. Nous étions aux petits soins l'un pour l'autre, attendrissants comme des copains d'un jour. Il en vint à m'enseigner autant de choses que probablement je pouvais lui en apprendre. Pour tout ce qui touchait à mon travail, il disait « Fonce, tout ce que tu fais est grand !» Il lorgnait par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais et il gueulait « Mais oui, parfaitement, génial mon pote !» ou bien « Pouah, et il s'essuyait la figure avec son mouchoir. « Vain Dieu, mon pote, il y a tant de choses à faire, tant de choses à écrire. Comment même commencer et tout coucher sur le papier sans ces contraintes raffinées et toutes ces entraves, quoi, les tabous littéraires et les frayeurs grammaticales ?»« Ah oui, mon vieux, voilà qui est parlé. » Et je voyais jaillir de ses yeux une sorte de lueur sacrée sous l'effet de ces excitantes visions qu'il me décrivait, d'une façon si torrentielle que dans les autobus, les gens se retournaient pour voir le loufoque surexcité. Dans l'Ouest, il avait passé un tiers de son temps dans les salles de jeu, un tiers en prison et l'autre tiers dans les bibliothèques publiques. On l'avait vu s'élancer ardemment dans les rues hivernales, tête nue avec ses livres qu'il emportait au billard, ou bien grimper aux arbres pour gagner les mansardes des copains où il passait ses journées à lire ou à se cacher de la police. Nous allions à New York. J'ai oublié ce qui était en jeu. Deux filles de couleur, peut-être. Mais ces filles n'étaient pas là. Elles étaient censées le rencontrer pour dîner et lui avaient posé un lapin. On alla à son parking, où il avait différentes choses à faire, changer de vêtements dans l'appentis, faire un doigt de toilette devant un morceau de miroir, etc. Ensuite, on mit les bouts. Et c'est cette nuit-là que Dean rencontra Carlo Marx. Ce fut un événement formidable que la rencontre de Dean et de Carlo Marx. Deux esprits aigus comme les leurs, ils se comprirent en un clin d'œil, deux yeux perçants croisèrent deux yeux perçants. Le truqueur génial et l'intellectuel brillant. Le mélancolique et le poétique truqueur et l'esprit ténébreux qu'est Carlo Marx. À partir de ce moment, je vis fort peu Dean et j'en eus un peu de peine. Leurs deux forces s'étaient entrechoquées de plein fouet et je n'étais qu'un cave en comparaison. Je ne pouvais pas rivaliser avec eux. Le tourbillon des événements démentiels qui se préparaient s'est déchaîné à ce moment-là. Il allait emporter tous mes amis et tout ce qui me restait de famille dans un grand nuage de poussière au-dessus de la nuit américaine. Carlo lui parla de Old Bull Lee, d'Elmer Hassel, de Jane, de Lee qui faisait pousser de l'herbe au Texas, de Hassel à Rikers Island, de Jane qui errait à Times Square dans un délire de benzédrine avec sa gosse dans les bras et finissait à Bellevue. Mais Dean parla à Carlo de personnages ignorés à l'Est, tels que Tommy Snark, le caïd bancal de la salle de jeu, joueur de cartes aussi et curieux petit saint. Il lui parla de Roy Johnson, de Big Ed Dunkel et de ses compagnons d'adolescence, de ses compagnons de rue, de ses innombrables filles et de ses partous et des gravures pornographiques, de ses héros, de ses héroïnes et de toutes ses aventures. Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après cette pause musicale, nous allons revenir au roman de Jacques Kerouac, Sur la route. Côte à côte, ils s'élançaient dans les rues, savourant toutes choses dans le style qui était alors celui de leur première amitié et qui plus tard devint tellement plus désolé, objectif, morne. Mais alors ils s'en allaient, dansant dans les rues comme des cloches dingues, et je traînais derrière eux comme je l'ai fait toute ma vie derrière les gens qui m'intéressent, parce que les seuls gens qui m'intéressent et qui existent pour moi sont les démons. Ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun, mais qui brûlent, brûlent, brûlent. Pareil au fabuleux feu jaune des chandelles romaines, explosant comme des poils à frire à travers les étoiles, et au milieu, on voit éclater le bleu du pétard central et chacun fait « Ah !» Quel nom donnait-on à cette jeunesse-là, dans l'Allemagne de Goethe? Désirant passionnément apprendre à écrire comme Carlo, écrire, première entre toutes les choses, vous savez. Dean lui livrait des assauts, usant de toutes les séductions amoureuses d'un vrai truqueur. « Maintenant, Carlo, laisse-moi parler, voilà ce que je dis, moi !» Je l'ai perdu de vue durant 2 semaines environ. Pendant ce temps-là, ils scellèrent leur liaison dans des discussions qui, de jour en jour, de nuit en nuit, prirent des proportions démoniaques. Puis vint le printemps, la grande saison des voyages. Et dans notre bande dispersée, chacun se préparait à quelques virées. Je travaillais activement à mon roman, et lorsque je fus à mi-chemin du but, après une descente dans le sud en compagnie de ma tante pour aller voir mon frère Rocco, je préparais sérieusement cette fois mon premier voyage dans l'Ouest. Dean déjà nous avait faussé compagnie. Carlo et moi, nous avions assisté à son départ à la station des Greyhounds de la 34e rue. À l'étage, il y avait un stand où on faisait des photos pour 25 cents. Carlo enleva ses lunettes et prit un air sinistre. Dean se campa de profil, risquant autour de lui des regards timides. Moi, je pris un air naturel. Cela me donna la mine d'un Italien sur la trentaine, prêt à tuer quiconque dirait du mal de sa mère. Cette photo, Carlo et Dean la coupèrent soigneusement par le milieu avec une lame de rasoir et chacun en rangea la moitié dans son portefeuille. Dean portait le costume sérieux d'un homme respectable de l'Ouest qui retourne à Denver. Sa première bordée à New York était tirée. Je dis sa première bordée. Mais il n'avait fait que travailler comme une brute dans son parking. C'était le plus fabuleux garçon de parking du monde, lui qui pouvait faire reculer une voiture à 40 milles à l'heure en plein encombrement et s'arrêter pile au pied d'un mur. Bondir du siège, galoper au milieu des pare-chocs, sauter dans une autre auto, la faire tourner à 50 à l'heure dans les allées étroites, la diriger en marche arrière à toute vitesse vers un emplacement, une, deux, stopper la voiture au frein à main, si sec qu'elle avait un sursaut au moment où il s'éjectait du siège, puis faire tout le chemin jusqu'à la cabine à tickets, en sprintant comme un pistard d'élite, tendre un ticket, se jeter dans une bagnole qui venait d'arriver avant que le propriétaire en soit à moitié sorti, lui passer littéralement sous le nez au moment où il descendait, embrayer en claquant la porte, et se ruer sur le prochain coin disponible, braquer, se glisser dans le trou, freiner, sortir, courir, travailler ainsi sans arrêt 8 heures par nuit, avec les heures de pointe de la soirée et les heures de pointe après les spectacles, fringué d'un pantalon beige taché de cambouis, d'une canadienne effrangée et de brodequins à soupape. Maintenant, pour retourner au pays, il portait un costume neuf, un costume bleu à fines rayures, avec gilet et tout, qu'il avait acheté $11 sur la 3e avenue, en même temps qu'une montre et une chaîne de montre et une machine à écrire portative qu'il destinait à ses débuts littéraires dans un meublé de Denver dès qu'il aurait trouvé du boulot là-bas. En guise de repas d'adieu, nous mangeâmes des saucisses aux haricots, dans un Riker de la 7e avenue. Et puis Dean monta dans le car affiché Chicago, qui disparut en grondant dans la nuit. C'est là qu'allait notre cow-boy. Je me promis à moi-même de prendre le même chemin quand le printemps resplendirait vraiment et s'épanouirait dans les champs. Et c'est effectivement de la sorte que j'ai commencé à m'initier à tous les mystères de la route. Et les choses qui allaient se passer sont trop étonnantes pour qu'on les taise. Parfaitement. Et ce n'est pas seulement parce que j'étais un écrivain et que j'avais besoin de nouvelles expériences que je voulais mieux connaître Dean, ni parce que j'en avais fini avec un cycle de ma vie et qu'à glander sur les campus je commençais à tourner à vide, mais parce que, dans une certaine mesure, en dépit de nos différences de caractère, il me faisait penser à un frère que j'aurais perdu depuis longtemps. La vue de son visage douloureux et anguleux aux longues rouflaquettes et de son cou musclé, suant sous l'effort, me rappelait mon adolescence dans les dépotoirs de peinture, dans les mares des environs de Patterson et sur les berges du Passaic. Ses vêtements de travail souillés lui collaient à la peau avec tant d'élégance qu'on aurait pu acheter un complet plus séant chez un tailleur à la mode, mais seulement le recevoir du grand faiseur de la nature, comme Dean au milieu de cette difficulté. Dans sa façon passionnée de parler, je retrouvais la voix de mes anciens compagnons et frères que je rencontrais sous les ponts, parmi leurs motocyclettes, le long des fils où séchaient les lessives du voisinage et sur les perrons assoupis de l'après-midi où les gars jouaient de la guitare pendant que leurs frères plus âgés travaillaient en usine. Tous mes autres amis étaient des intellectuels. Chad, le Nietzschéen anthropologue. Carlo Marx, qui prononçait d'une voix basse et sérieuse des discours délirants, loufoques et surréalistes. Old Bull Lee, à la voix traînarde et râleuse. Ou bien des criminels manqués, comme Elmer Hassel, dont le ricanement donnait le ton au clan. Ou encore Jenny Lee, vautrée sur son couvre-pied d'Orient, reniflant avec dégoût le New Yorker. Mais l'intelligence de Dean était en tout point aussi bien faite, aussi brillante et accomplie, tout en étant préservé d'un intellectualisme assommant. Quant à sa criminalité, elle n'était pas de l'ordre de la bouderie et du ricanement. Elle s'affirmait comme une sauvage explosion de la joie américaine. C'était l'Ouest, le vent de l'Ouest, un hymne jailli des plaines, quelque chose de neuf, depuis longtemps prédit, depuis longtemps attendu. il n'avait pas volé des autos que pour la joie de conduire. D'ailleurs, tous mes amis de New York s'en tenaient à cette position négative, cauchemardesque de mettre à bas la société et d'en fournir des justifications éculées et pédantes, politiques ou psychanalytiques, alors que Dean se contentait de parcourir au galop la société, avide de pain et d'amour. Peu lui importait de prendre tel chemin ou tel autre. Tant que je peux avoir cette bonne petite poule avec un petit quelque chose là entre les jambes, mon gars, et pourvu qu'on puisse manger, mon petit, tu m'entends, j'ai faim. Je meurs de faim, mangeons tout de suite. Et vite, nous courions manger ce qui, comme dit l'Ecclésiaste, est notre ration sous le soleil. Cette émission est terminée pour ce soir et je vous retrouve demain pour la suite de Sur la route de Jack Kerouac. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Lectures en liberté en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.